Chapitre 42. Pour ne pas arriver avec une voiture au moteur froid, Juna quitte le quartier, s'engage sous les voies du métro aérien et fait le tour de Bornhagen avant de revenir dans le petit lotissement pavillonnaire. Il se gare près de la maison de Parissa et entend le moteur chaud crépiter derrière lui quand il s'approche de l'entrée. Au-dessus du toit de tuiles, on aperçoit les branches souples de quelques grands bouleaux. Le quartier est calme, comme plongé dans un état de léthargie. Juna n'a pas vu la force d'intervention, mais il sait que les hommes sont là, nerveux et fébriles, attendant que l'ordre soit donné. Ils sont tiraillés entre l'impatience de plonger dans le présent atemporel de l'action et la peur des blessures et de la mort. S'ils se mettaient subitement à tirer, ils pourraient perforer toute la rangée de maisons mitoyennes en moins d'une minute. Les fusils d'assaut du groupe national d'intervention sont des HKG-36C. C'est une arme avec une cadence de tir assez élevée, capable de vider un chargeur entier de balles blindées en moins de 3 secondes. Juna avance vers la porte d'entrée blanche, tout en pensant à la carte détaillée du secteur qu'il vient de voir dans le QG d'en face, avec les zones à risque déployées en éventail des deux côtés de la maison. Les positions de toutes les unités opérationnelles et leur chemin d'approche individuel y figuraient. Les feuilles d'un arbre bruissent sous le vent. On perçoit le bruit d'une voiture au loin. Juna tend le doigt et appuie sur le bouton de la sonnette. Il sait qu'un des tireurs d'élite surveille le perron. Il voudrait probablement viser la petite fenêtre insérée dans la porte d'entrée, mais la tête de Juna la dissimule. Une femme avec une poussette sort d'un pavillon du côté de l'aire de retournement. Sa queue de cheval blonde sautille au rythme de ses pas. Elle s'approche, puis s'arrête soudain et répond au téléphone. Juna sonne une deuxième fois. Une VMC installée sur un toit se met en marche, mais s'arrête presque aussitôt. La femme avec la poussette ne bouge pas. Un grondement s'élève, annonçant un camion poubelle qui s'engage dans Gnestavegen et s'immobilise dans un sifflement de vapeur à l'entrée de la rue. Deux hommes en descendent et ramassent les ordures. Juna entend des pas à l'intérieur et s'éloigne de la vitre. Parissa Rajen met la chaîne de sécurité avant d'ouvrir. Elle s'est rhabillée, porte le même hijab rose que tout à l'heure et un pull épais qui lui arrive aux cuisses. Elle est petite et mince. Son maquillage est discret, du rouge à lèvres, de l'ombre à paupières et un fin trait de côle. « Je vous apporte un message de Dag Avandhalak, » dit Juna. Le regard assuré de la femme vacille pendant une demi-seconde. Elle tourne ses yeux vers la rue, puis vers Juna de nouveau, avant de prendre une profonde inspiration et de fermer la porte. La femme avec la poussette raccroche et repart. Elle s'approche de la maison de Parissa pendant que les éboueurs retournent vers leur camion. Juna se déplace encore davantage pour que le tireur d'élite puisse viser l'interstice qui va s'élargir si la porte s'ouvre de nouveau. Le camion Ben passe dans un vacarme assourdissant et s'engage sur l'aire de retournement. Parissa enlève la chaîne de sûreté, rouvre la porte et invite Juna à entrer. Elle verrouille la serrure derrière lui et jette un œil dehors, par le judas. Le pavillon est exactement comme sur les plans de construction. À gauche, un escalier étroit mène à l'étage où est située la chambre avec le placard. Parissa le fait monter un demi-niveau et entrer dans le salon qui donne sur l'arrière. Il la suit tout en observant le drapé de ses vêtements sur son corps quand elle bouge. Elle ne porte ni armes ni ceinture d'explosifs. Un beau tapis recouvre le parquet usé. Des rideaux de dentelle sont suspendus aux fenêtres et devant la porte de la terrasse à moitié vitrée. « Asseyez-vous, » dit-elle à voix basse. « Je vous offre une tasse de thé ?»« Oui, merci, » répond-il en s'installant dans le canapé de cuir marron. Passant devant une cheminée ouverte, sans bûche ni cendre, elle se rend dans la cuisine. Il la voit regarder la rue par la fenêtre, puis prendre une casserole dans un tiroir. Juna se remémore ce qu'il a appris sur le tueur. Comment il s'était avancé vers le ministre des Affaires étrangères, avait remis un nouveau chargeur dans son pistolet et engagé une balle dans la chambre sans perdre sa ligne de tir. Parissa revient avec de petits verres de thé sur un plateau d'argent, un bol avec du sucre en poudre et 2 petites cuillères finement ciselées. Elle pose le plateau sur la table ronde en laiton, puis s'assied en face de lui. Ses pieds minces sont nus et soignés, les ongles de ses orteils sont recouverts d'un vernis doré. Salim a été transféré de Halle au centre pénitentiaire de Kumla, commence Juna. À Kumla ? Dit-elle en tirant un peu sur son pull. Pourquoi ? Son visage est intelligent et alerte. Ses yeux révèlent une légère perplexité, comme si elle ne parvenait pas à réprimer un sentiment d'absurdité face à tout ce qui lui arrive. Je ne sais pas, il ne m'a pas donné la raison, mais il voulait que vous sachiez qu'il ne peut plus téléphoner et que personne ne peut le contacter pour le moment. Juna porte le mince verre à sa bouche tout en pensant aux consignes de Salim Rajen. Il doit attendre qu'elle lui ait servi du pain et des olives avant de délivrer le véritable message. « Donc vous connaissez Salim ?» demande-t-elle en inclinant doucement la tête sur le côté. « Non, » répond Juna avec sincérité, « mais il a été placé dans ma section et, entre détenus, on s'efforce d'être solidaires. Je comprends. On m'a accordé ma permission et, dans ces cas-là, on essaie de faire quelque chose pour les autres. » Un raclement se fait entendre et Parissa jette un rapide coup d'œil vers le jardin. Les tireurs d'élite postés à l'arrière sont probablement en train de viser sa tête en cet instant. « C'était quoi alors le message que vous deviez me transmettre ?» demande-t-elle. « Il voulait que je vous dise qu'il a été transféré. » Parissa renverse du thé, et quand Juna se penche en avant pour lui donner une serviette, il sent le holster d'épaule avec son pistolet glisser un peu vers l'avant. « Merci. » Elle a vu l'arme. Ses yeux sombres sont plus luisants. Elle baisse le regard et fait semblant de souffler sur le thé, mais Juna se rend compte qu'elle lutte pour garder son calme. Le pistolet en soi ne le démasque pas, puisqu'aux yeux de Parissa, il est un criminel, mais il réalise que la situation est tout à coup devenue menaçante. « Je vais chercher quelque chose à grignoter, » dit-elle, et elle file de nouveau à la cuisine. Juna voit de petites particules de suie tomber dans le foyer ouvert de la cheminée et il entend un faible bruit au-dessus. Le groupe d'intervention avance sur le toit. Avec un grincement, le camion Ben arrive devant la maison et crache bruyamment de la vapeur. Parissa revient avec un bol d'olive et deux petites fourchettes qu'elle pose sur la table. « J'étais très jeune quand on s'est mariés, » dit-elle à voix basse en regardant Juna dans les yeux. Je venais d'arriver d'Afghanistan après les élections de 2005. Juna hésite. Doit-il transmettre le message ou pas? Elle est allée chercher des olives, mais pas de pain. Parissa jette un regard inquiet vers la cuisine. Le camion Ben comprime les ordures avec un grincement désagréable. Un récipient en verre éclate et la jeune femme sursaute avant d'essayer de lui adresser un sourire. Le pistolet de Juna est réglé en mode double action. S'il dégaine, il peut tirer sans l'armer manuellement. Il sentira simplement une plus grande résistance de la queue de détente lors du premier coup de feu.